Léon Cladel recueille quelques cires, texte quasi jeune. Oui, tel quel, et pourtant âgé, lui de 99 ans, elle de 97, ils avaient célébré leurs noces d'argent en 1821. Celle d'or en 1846, après un demi-siècle de mariage, et s'apprêtait à fêter celle de diamant à la veille de l'année terrible, époque à laquelle je fis leur connaissance un matin de juillet à la moisson. « Halte !» dit mon père en attachant au tronc d'un ormeau sa mule pyrénéenne qu'il avait traînée par la bride à travers un sentier si rocailleux et tellement à pic que les chèvres eux-mêmes ne l'escaladaient pas sans peine. « Imite-moi, casse ton oreillarde à côté de la mienne et viens tout doucement par ici. »« Voilà, » m'écriquai-je après m'être séparé de ma monture qui tondait déjà les écailles d'un chardon. « Ne sommes-nous pas en retard ? Y sont-ils ? Oui, baisse-toi, regarde à travers cette haie d'aubépine. » Et tu les verras tous les deux. » Elle, assise sur un tas de javel, filait sa quenouille et parfois, en mouillant le champ enroulé autour du roseau, bénigne, elle caressait de ses yeux pairs un chat blanc, comme une hermine et pelotonné contre ses jupes, qui se chauffait au soleil. Lui, non loin de là, binait la vigne de son verger, et de temps à autre, il tortillait les oreilles à l'un des surgeons de ces lévriers sarrasins que les morts amenèrent avec eux en Espagne, et, sifflotant une ariette vieillotte, il couvait de ses prunelles grises sa neigeuse compagne et lui souriait, tout comme si le sang fougueux de la jeunesse eût encore circulé dans ses veines. « Il fait une belle lumière aujourd'hui, n'est-ce pas, Manou ?»« Oh, certes. Et tu travailles avec beaucoup de plaisir aussi, toi. »« Mais oui, Louiset, et je me suis jamais senti en meilleure santé. Remercions Dieu. » La cloche d'une église rurale au loin tintait. Il ôta sa coiffe de laine et, tandis qu'il se signait, elle s'agenouilla dévotement. Et très droit, assez dodu, fort basané, toutes ses dents, il avait un air non moins ingénu qu'elle-même, un peu ragote et dont les joues semées de taches de rousseur s'épanouissaient sous la toque un peu plate et fort rembourrée des montagnards du Rouergue. « Et maintenant, » ajouta-t-il après avoir récité des oraisons patoises, « embrasse-moi, la mienne. » « Allez, avance, le mien !» Il s'approcha d'elle et lui baisa doucement les paupières. Attendri et ravi de leur accolade, Montauban, tu ne le sauras pas, et moi, retenant notre souffle afin de ne pas les troubler, nous les contemplions en silence et je ne sais quelle délicieuse sensation nous éprouvâmes quand leurs chevelures également bouclées et chenues se mêlèrent. « Tu m'aimes toujours autant, petite brunette. Mais oui, mon blondin. » Un soupir jaillit de ma poitrine gonflée et d'une voix moins assurée qu'il ne lui voulut. Mon père les héla. « Si nous dérangeons personne, nous entrerons chez vous, ancien. Excusez, s'il vous plaît. »« Il n'y a pas d'excuse. Entrez à pied comme à cheval, les portes sont ouvertes, Jean. » Et quand nous partîmes côte à côte, le vieux terrien s'écria « Vous, oh, c'est vous les meuniers de la lande, oh, je suis bien content de votre passage chez nous. Il convient de se rafraîchir, allez, un peu de vinade, ma belle. » « Oui, répondit-elle avec une révérence d'antan et les lèvres égayées d'un sourire de fillette. « Oui, certes, avec plaisir et tout de suite. » Elle pénétra sur le champ sous un toit de chaume et bientôt en ressortit avec une bouteille de piquette, 4 verres et plus de 20 fois en une heure, Nous trinquâmes en causant du passé, du présent et de l'avenir. Il s'était épousé en l'an 2 de la première république, la grande. Et le dernier des 15 enfants qu'il avait engendrés et qu'elle avait conçus et nourris à la mamelle, leur était né le lendemain du jour où l'effrayant empereur, prisonnier des Anglais, partit pour Sainte-Hélène. Et depuis lors, s'ils avaient bien trimé, bien sué, le ciel les avait assistés suffisamment. Toutes leurs marmailles étaient mariées, établies, les uns à gauche, les autres à droite, et leur aîné, Jacoumet, était déjà bisaïeul. On se visitait de loin en loin, et le soir de la fête votive, ils présidaient, eux, le repas de la famille, qui se composait à cette heure de leurs 15 mâles ou femelles, ayant eu 49 filles et 32 garçons, lesquels, à leur tour, en avaient fabriqué 3 fois autant. En sorte qu'on se trouvait ce jour-là plus de 400 chrétiens à table. Et tout ce monde était sorti d'eux seuls, une paire de braves pigeons qui jadis avaient roucoulé de leur mieux. Et voilà, tenez, leur dis-je au moment de remonter en selle, en leur tendant une tourte ainsi qu'un tonnelet de Cahors que ma charitable mère avait fourré dans ma gibecière en me priant de les remettre à ces vieillards aimés et vénérés. Acceptez ça, c'est de la part de celle qu'on appelle la bonne voisine en bas, au bord de l'eau, dans la vallée. Ils accueillirent le cadeau très délibérément, et tout en le maniant, dialoguèrent entre eux de même que si nous n'avions plus été là. Dimanche, après la messe, on festinera, si le cœur t'en dit, au milieu du jardin, Minette. Oui, mais nous, seulement, méfie-toi de ce vin, il part ton cerveau. Si t'es pas sage comme une image après l'avoir bu, gare à toi, pas quand. Il n'y irait pas à présent. Qu'on est un peu sur le tard de faire des folies. Ah, que veux-tu, mignotte, on n'est pas façonné. Je fus, suis et serai toujours un peu fou, moi. Fringante, est-il permis de l'être encore, eh? T'as pas de honte, oh! Cette pastorale, cet églogue, cette idylle, cette bucolique, il y a 10 ans qu'elle est gravée sur ma rétine, et que le cœur me bat en songeant à ce couple de patriarches aujourd'hui disparus. Un malheur est arrivé l'autre nuit auprès d'ici, nous dit-on un soir à la brume. La centenale du Pic Rouge est morte subitement avant-hier. On l'enterre demain à midi. 20 heures après l'annonce de cette nouvelle fatale, je débouchais sur l'âpre colline où la chaumière des Longévites se dressait au centre d'un plateau presque entièrement déboisé et où des blocs de roches rougeâtres mis à nu semblaient saigner dans les entrailles de la terre. Assujettis au timon d'un char à 4 roues, 2 vaches aux poils d'une couleur non moins ardente que celle du sol, ayant devant elles une ânesse attelée en flèche, meuglaient, sucées par le temps qu'elles flagellaient en vain avec leur queue, et tout au milieu de l'air, une lys que j'avais flattée en passant, hurla lugubrement à l'aspect d'un abbé suivi de quelques adolescents en soutanelle écarlate. Il aspergea d'eau bénite la bière déjà placée sur le lit à jour du chariot et marcha vers la maisonnette que l'ange noir avait traversée. À ce moment-là, sur le seuil, illuminé par l'implacable flambeau des ciels du midi, parut le veuf. Et lui qui hier encore guillerait, était moins cassé qu'un sexagénaire très vert et très dégourdi, me sembla plus caduque, plus décrépit que ne le serait tout homme ayant vécu 10 siècles. Ahuri, tête nue, exsangue, aussi blême que la cire des cierges d'église, il s'avança chancelant ainsi qu'un abriaque vers les 400 ou 500 personnes réunies là, sa parenté si nombreuse y étant venue presque tout entière. Il serra mes mains, mon insu, puisque ses yeux noyés de larmes ne leur servaient guère, et je tressaillis au contact des siennes, aussi rigides et plus froides que des branches de fer. On lui posa bientôt sur le crâne un antique feutre rappelant le couvre-chef des Contadins sous Louis XVI, mais qu'il avait vainement cherché de la cave au grenier. Car, affirmait-on autour de moi, depuis la veille, il était quasiment tel qu'un aveugle et ne reconnaissait plus sa droite de sa gauche. Ensuite, au son argentin de quelques clochettes de sacristie, dont l'écho répétait dans les gorges farouches d'alentour les glas de deuil, le convoi se mit en route. Après avoir à diverses reprises fait halte au déclin du coteau, criblé de fondrières, dans lesquelles les bêtes à cornes s'abattaient en mugissant, et l'ânesse en bruyant, on parvint à la porte d'un misérable cimetière, au milieu duquel béait, entre des multitudes de maigres croix, toutes moisies, une fosse fraîchement creusée. En quelques minutes s'acheva la cérémonie, et le curé battait déjà en retraite que le mari de la défunte, soutenu sous les aisselles par deux de ses fils, agenouillés comme lui sur le bord de la tombe, se redressa péniblement, élevant vers les cieux ses bras convulsés et ses lourdes paupières, sur lesquels on ne distinguait que deux trous enflammés où suintait du sang. Et, debout devant l'abîme où tout ce qui fut sa joie en ce monde était englouti pour toujours, étendant comme pour la bénir, elle, ou du moins ceux qui restaient d'elle, ses grosses mains rugueuses que des veines en relief rayaient, telles que des ficelles teintes en noir, il ouvrit sa bouche, d'où nul mot n'émana. Rien. On voulut l'entraîner, il résistait. Et tout à coup, une roulade de sanglots se ruèrent hors de sa poitrine, tumultueuse et brisée. Enfin, enfin, il glapit en bégayant comme un bébé ces trois paroles-ci. « Compagnonnette, oh ma compagnonnette, aide, aide !» Et pesamment, il se renversa sur la glaise évanoui. « Loupépé, l'ancêtre, ne conservera plus longtemps ses os !» murmurait sa lignée en l'emportant avec précaution. « Oh, pauvre, pauvre lui !» Quelques jours après l'inhumation de sa moitié, j'allais le voir. Entouré de quelques ménagères qui mâchaient du latin en lui donnant des bols de tisane qu'il s'efforçait de boire à petits glouglou, il était étendu comme un crucifié sur la vaste couche à baldaquin où tant de fois il avait, selon la loi de nature, fécondé celle à laquelle il s'était uni, vierge comme elle, et que durant plus de 80 ans il n'avait jamais trompé. En partant, l'épouse loyale avait pris avec elle l'âme de son fidèle époux. Il me reconnut à mon langage et d'une voix éteinte, si basse que je l'ouïs à peine. Il me dit que, depuis son malheur, il avait bien baissé. Les jambes, les épaules, les bras, l'estomac, la tête et le cœur, tout lui avait manqué à la fois. Et en la perdant, il avait tout perdu. Qu'il lui tardait de la revoir. Oh, plutôt bon Dieu, de le retirer auprès d'elle et de l'y garder pendant toute l'éternité. Puis il me saisit les mains et je crus qu'elle se pétrifierait entre ses doigts blafards, complètement gelée. et tandis qu'en ma présence il grelottait et claquait des dents, déjà cadavre comme celle qu'il réclamait sans cesse et qui ne savait plus répondre à son appel. « Ancien, lui demandai-je, avez-vous donc bien froid ?»« Oui, répliqua-t-il en exhalant ses dernières forces dans cette suprême confidence. « Oh, bien, bien froid, oui, depuis qu'elle m'a quitté, ma tourterelle, je ne peux plus me réchauffer, moi, son tourtereau. Compagnonnette, oh, ma compagnonnette !» Il pleurait et riait comme un enfant. Ce naïf centenaire, en baisant la place désormais vide à côté de lui, dans le grand lit conjugal. 1883.